Et il est 19h22.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
De toutes les campagnes électorales, on dit que les questions internationales entrent si peu en ligne de compte. Et à chaque fois, en 2017, malgré notre implication en Mali, en 2012, malgré une guerre en Syrie en cours, ce n'est pas ça qui a fait voter les électeurs. Cette fois-ci, la situation est inédite parce que la guerre est là, on est entré en voiture depuis la Pologne, parce que la menace d'une extension du conflit n'est pas une vue de l'esprit après l'Ukraine. Que peut-il se passer? Parce que les mots de Troisième Guerre mondiale ont été prononcés, parce que les conséquences économiques, elles sont là pour nous aussi. Emmanuel Macron a mis un temps infini avant d'entrer en campagne. L'invasion russe a commencé quand il était à deux doigts d'annoncer sa candidature, ce qui a fini par arriver par courrier. Il a fait son premier déplacement aujourd'hui et cette double casquette de président candidat, jamais facile à porter, est encore plus confusante qu'à l'ordinaire. Les autres candidats ont dû parfois manger leurs déclarations antérieures et leur exercice de rétropédalage est un moment d'équilibriste. Le trou était déjà creusé entre Emmanuel Macron et ses opposants. Il se creuse encore plus. Le thème du pouvoir d'achat n'a pas disparu, mais il a pris une autre forme. La question de la présidentialité se pose également bien plus que précédemment. Alors, est-ce que ça veut dire que cette campagne est faussée? Qu'en fait, elle n'aura pas lieu? Qui peut trouver réellement un avantage dans cette situation-là? Les candidats, à chaque fois, essaient d'imposer leur narrative. C'est ça qui fait une campagne. Regardez le thème de l'immigration, par exemple, il y a quelques semaines. Et bien là, c'est l'événement qui fait la campagne. Et peut-être que ça, c'est très très inédit. C'est le téléphone sonne ce soir. Et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Le premier, c'est vous, Anis. Bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir et bonsoir aux auditeurs de France Inter. Justement, ma question, elle est tout à fait dans cette actualité de campagne électorale qui s'entrechoque avec les événements d'Ukraine, avec la guerre en plein Europe, dans le cœur de l'Europe. Et justement, moi, ma question, elle s'adresse aux médias, sans bien évidemment aucun esprit de polémique, mais on voit que depuis une douzaine de jours, cet événement s'est imposé et les médias traite d'une manière très abondante en donnant une grande surface à la guerre en Ukraine et la Russie, etc. Donc si on veut avoir une campagne électorale, c'est bien sûr les candidats qui doivent se déployer sur le pays pour exposer leur programme, les citoyens qui doivent les écouter, leur répondre, mais les médias sont très importants, sont un acteur quand même important. Donc comment les médias vont pouvoir se positionner? Quand est-ce que vous allez, entre guillemets, lever le pied sur l'Ukraine pour ouvrir un espace pour le débat démocratique pour notre pays? Parce que quand même, il ne faut pas oublier qu'il s'agit de 5 ans qui nous attendent. Et on ne peut pas se permettre une réélection, par exemple, de Macron au rabais, ou une élection qui de X parmi les 11 autres candidats, qui se ferait comme ça, un petit peu d'une manière dérobée, sans qu'il y ait eu échange.
On a entendu, Anis, ce que vous dites. Alors, lever le pied sur la guerre en Ukraine, en l'état, le fait est que ça paraît difficile, parce qu'effectivement, c'est une actualité qui écrase tout le reste, mais on va poser la question à nos invités. Merci beaucoup pour cette introduction et pour discuter ensemble ce soir. Françoise Fressoz est avec nous, bonsoir.
Bonsoir. Alors, ce que pose l'auditeur comme question,
Françoise,
c'est au fond...
Avant même que j'ai présenté tout le monde, mais allez-y, je vous en prie, Françoise.
Au fond, ce que pose l'auditeur comme question, c'est la hiérarchie de la hiérarchisation de l'information, et c'est notre travail quotidien. C'est très difficile de passer sous silence tout ce qui se passe en Ukraine, d'abord parce qu'il y a des rebondissements chaque jour, parce que la situation est dramatique, parce que c'est un conflit qui nous implique, et on peut être que sidéré par les appels des Ukrainiens à l'Europe, à notre solidarité, à leur résistance. Et puis je voudrais quand même nuancer en disant, écoutez, qu'est-ce qu'a fait l'actualité, notamment des chaînes d'information en continu ces derniers mois? C'est Éric Zemmour, c'est Marine Le Pen. Au fond, ils ont eu aussi leur séquence, ils ont eu leur exposition. Et donc là, je pense qu'on peut pas dire on va lâcher prise et lâcher un peu sur l'Ukraine, parce que c'est ce qui reste le plus important aujourd'hui.
Roland Quayrol, politologue et chercheur honoraire au CVPOF, que j'ai pas eu le temps de présenter avant que Françoise ne se lance. C'est vrai que ce que dit la question d'Anis, c'est aussi qu'au fond, les gens ont un peu le sentiment qu'on leur vole leur campagne. Enfin, c'est toujours un peu compliqué, cette situation. événement-là, qui pour le coup, un événement international qui écrase le reste, c'est inédit. Est-ce qu'on dit que c'est complètement inédit sous la cinquième?
À ce point, oui, ouais. Bien sûr. C'est inédit et le problème, c'est qu'évidemment, il nous reste quoi, 33-34 jours de, 34, ouais. théoriquement de campagne et la guerre d'Ukraine sera clairement pas finie. Ça veut dire que ça va continuer. La question que pose Anis va se poser jusqu'au bout et je crois que c'est une question légitime. Je crois qu'il y a, après tout, la presse écrite, alors elle a de la place, peut, elle, parler d'autre chose que seulement de la guerre en Ukraine. Et je crois qu'il serait légitime qu'on fasse un peu de place à l'actualité d'une campagne présidentielle en France. Vous savez, en moyenne, les gens regardent 20 minutes par jour une chaîne d'information continue. C'est peut-être pas la peine de faire 24 heures. On peut faire 22 heures, 23 heures, et quand même ouvrir, comme le dit l'auditeur, une fenêtre. Donc je pense évidemment, comme tout le monde ici, que la guerre en Ukraine est tellement fondamentale pour nous tous, je veux dire pour la planète entière, que ça mérite une priorité absolue. Mais une priorité absolue, ça ne doit pas vouloir dire forcément un envahissement. On peut comprendre aussi... on peut comprendre un peu moins d'images et un peu moins de commentaires permanents des mêmes commentateurs. On peut comprendre, on n'est pas si bête que ça, et on peut aussi comprendre d'autres choses.
Yael Gauz, je vous salue, Yael, au passage.
Bonsoir.
Service politique d'Inter.
Bah juste avant de venir, moi j'imprimais ce qu'on appelle dans le jargon ici à France Inter, la prévision. La prévision, ouais. C'est quels sont les événements politiques incontournables dans mon secteur que je traite, moi, la politique, de la semaine. Et il y a plein de choses. Demain, c'est la journée internationale des droits des femmes. Vous avez des candidats qui vont se positionner sur l'égalité professionnelle femmes-hommes. Vous avez la CFDT qui bientôt, ça sera jeudi, auditionne les candidats. La CPM bientôt, les pompiers auditionnent les candidats aussi, ça c'est jeudi, enfin bref, l'UIMM, vous avez donc toute une série de grands oraux, je fais la liaison, où tous les candidats vont parler aussi économie, sociétale, durant la semaine. Donc évidemment, il y aura une fenêtre pour parler aussi de ces sujets-là. Et puis, à travers la guerre en Ukraine, vous avez toute une déclinaison de thèmes, et je pense là au sommet européen de Versailles de jeudi et vendredi, qui vont au-delà de la guerre. C'est au quotidien, comment on a une souveraineté alimentaire, comment on a une souveraineté énergétique, comment on reconstitue ou non une armée en Allemagne et en France. Enfin, bref, ça découle en fait. L'Ukraine ouvre aussi des champs de débat possibles sur notre territoire.
Mais c'est peut-être ça l'idée d'ailleurs, Françoise Fressos, non ? Après tout, je le disais tout à l'heure en introduction, d'habitude, et c'est bien ce que font les candidats, le but du jeu c'est d'imposer sa narrative, ce que certains, notamment Éric Zemmour, ont parfaitement réussi à faire en début de campagne. Là, pour une fois, c'est l'actualité qui impose la narrative aux candidats. Et c'est,
oui,
et
alors,
pourquoi pas, non, après tout.
Ce qui est très intéressant dans cette campagne, c'est que d'une part, l'international prend une proportion très très importante. Et à travers l'international, c'est la construction européenne. On voit qu'au fond, tous les sujets sur lesquels il va falloir agir vite, c'est le prix de l'énergie, le prix de l'essence, le prix du blé, la réponse, elle va être européenne. Donc on a quand même une prise de conscience que... D'accord, il y a la France, mais aussi il y a toute cette construction européenne. La semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu une réaction extrêmement inédite de l'UE sur les sanctions, sur la riposte à la Russie. Et ce qui va être le narratif de cette campagne, c'est, ça va être un peu, est-ce que l'Union européenne, avec ses valeurs démocratiques, peut opposer une résistance à la Russie ? Autrement dit, est-ce que l'arme économique peut être opposée aux armes militaires, avec toutes les menaces qu'on sait, c'est-à-dire le nucléaire, un Poutine qui est pas très contrôlable, et nous qui essayons de jouer à la fois des sanctions économiques, mais qui sommes aussi très pressurés par les Ukrainiens qui disent mais engagez-nous, défendez-nous. Donc là on a le narratif d'un drame, et on ne sait pas comment ça va se dérouler, et l'histoire elle s'écrit au jour le jour. C'est ça, je trouve, qui rend absolument passionnante cette campagne.
Et on a Roland Cayrol, peut-être finalement le même combo différemment que celui qu'on avait au début. Après tout, le pouvoir d'achat est toujours dans l'actualité, il va se poser de manière très différente, puisque effectivement les sanctions, nous aussi, nous en avons la conséquence. Le thème de l'immigration, il se pose aussi, puisque c'est posé celui de l'accueil des Ukrainiens. Donc on se dit que le prisme est très différent, mais qu'on peut aller chercher chacun des sujets de la campagne à travers ce prisme ukrainien auquel on ne peut pas échapper, non ?
Oui, c'est d'ailleurs vrai de toutes les crises. Les crises sont un moyen, chaque fois, de jeter un projecteur très cru sur les véritables divisions, les véritables affrontements politiques. Donc je crois en effet que ça va être le cas. Ça n'empêchera pas, en effet, le pouvoir d'achat, ce que vous voulez, le portefeuille qu'on a dans la poche pour aller au supermarché, c'est quand même, ça compte énormément pour les gens. Mais c'est vrai aussi que je voudrais dire que on dit tout le temps les Français s'intéressent pas à la politique internationale, et c'est pas complètement vrai. D'abord, nos médias, les radios et les télévisions en France sont les médias du monde qui traitent le plus l'international. Alors on a souvent l'impression que c'est pas assez, que le monde est tellement important que c'est dommage. Mais nous sommes quand même les gens qui parlons le plus en radio et télé aux électeurs de ce qui se passe à l'étranger. Donc ils sont tout de même, ils ont tout de même un fond permanent d'informations sur ce qui se passe. L'Europe, elle est très présente dans les conversations des gens. Ils nous reprochent de pas dire les choses très clairement sur la manière dont ça fonctionne. Ils comprennent pas comment ça marche. Mais elle est très présente, y compris dans les conversations préélectorales.
Mais parce que là, on est moins bon sur l'Europe. On est un des pays à avoir le moins de correspondants à Bruxelles
pour
traiter de la matière européenne.
Et on traite moins cette matière comme une actualité journalistique. Et, mais c'est vrai que, alors vous disiez en commençant, ça va renforcer l'idée de présidentialité. Ouais. Et ça, je crois que c'est très fort. Mmh. Et particulièrement dans un pays comme le nôtre, où on a le sentiment que l'élection présidentielle, c'est la mère des batailles, et que le président fait tout, on va voter au présidentiel, et puis on va plus voter aux autres élections, tellement c'est important. Mais du coup, il nous faut un président qui fasse vraiment président, et qui montre qu'il l'est. Donc, il y a là un défi, bien sûr pour Macron, parce qu'il est en poste, mais aussi pour chacun des autres, pour montrer qu'il serait au niveau.
Mais Yael, justement là-dessus, on se dit que l'international, ça arrive toujours comme, là pour le coup, ça arrive comme une surprise en fait pour les autres candidats, et qu'au fond, c'est typiquement le sujet sur lequel ils sont pas capés en fait. Aucun d'entre eux n'y a réellement réfléchi, donc n'est capable d'apporter une vraie vision. Est-ce que je me trompe ?
Sauf ceux qui ont eu à s'y frotter aussi dans l'exercice du pouvoir. C'est évidemment là que se fait la différence. Et puis vous avez des candidats, je pense à Éric Zemmour, qui ont plaqué un schéma de pensée depuis le début de leur campagne, et là les faits ne collent plus du tout au schéma de pensée. Le grand remplacement d'Éric Zemmour ne trouve pas sa place dans le conflit russo-ukrainien. Donc là, vous avez un problème là de narratif, comme disait Françoise. Ouais. Surtout quand vous avez aussi le Tchétchène Ramzan Kadyrov qui pratique la charia dans son pays et qui envoie des soldats islamistes aider Poutine. Ça ne fonctionne plus du tout dans son schéma. Et d'ailleurs, lui, il dit « ne vous laissez pas distraire ». Par le conflit ukrainien, parce que le grand placement vient par le sud, pas par l'est. Donc il se raccroche à des branches, mais qui ne tiennent pas là.
Est-ce que c'est lui, Françoise Fressos, qui a le plus à perdre de ce qu'on voit en ce moment dans le tangage des sondages ?
Je pense que c'est le plus exposé, parce que il a été le plus loin. Marine Le Pen, dans cette campagne, elle essaye d'adoucir son image, d'arrondir les angles. Donc elle est prête à certains revirements. Non mais Poutine, d'accord, c'est pas celui que je pensais. La guerre, c'est pas bien et tout. Zemmour, au fond, il a fait sa marque de fabrique, c'était de dire crûment ce que les gens ne voulaient pas, n'osaient pas dire. Donc il a fait un narratif extrêmement disruptif par rapport à l'ambiance générale. Il a clamé son amitié, en tout cas sa complaisance pour Poutine. Il continue à dire qu'il faut traiter avec la Russie. Et il a été très très loin dans le non-accueil des Ukrainiens.
Puis il a dû rétro-pédaler d'ailleurs.
Parce que il était morigéné par ses troupes. Donc on sent qu'il est complètement, effectivement, le narratif est pris complètement à rebours. Et donc c'est effectivement le plus fragile. Les autres résistent un peu mieux. Mélenchon prend un petit peu, mais il résiste mieux parce que lui, il est au fond dans je veux pas être derrière les États-Unis, je veux rester impartial, je suis pour la paix, je suis pour la dénucléarisation du monde. C'est très utopique, mais enfin ça s'entend. Et Marine Le Pen, elle est très opportuniste, elle essaye d'arrondir les angles et d'adoucir son image pour être vraiment la challengeuse d'Emmanuel Macron.
Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi, Yael peut-être, pourquoi Valérie Pécresse visiblement ne gagne ni ne perd, mais reste n'arrive pas à jouer de jeu là-dessus, en fait, de jouer de cartes ?
Parce qu'elle ne peut pas se distinguer en réalité avec Emmanuel Macron sur ce dossier russo-ukrainien, c'est extrêmement compliqué, c'est-à-dire vous avez un Jean-Pierre Raffarin qui a rejoint Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'elle dit de différent de Jean-Pierre Raffarin, par exemple, sur cette question, sur cette crise actuellement ? Et surtout, vous avez eu peut-être une difficulté en termes de communication politique, une grande difficulté d'ailleurs la semaine dernière de son côté, à vouloir copier, singer, j'allais dire, l'exercice du pouvoir quand on ne l'a pas encore, à vouloir faire des shadow cabinets ou des conseils stratégiques bis avec d'anciens ministres Gérard Longuet, Michel Alliot-Marie, qui n'incarnent pas forcément d'ailleurs l'avenir dans sa campagne, à les mettre scène comme ça. Voilà, donc là-dessus, elle a peut-être pas trouvé le bon créneau, et c'est peu de le dire.
Laure, bonsoir.
Laure, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
On vous écoute, allez-y.
Bonsoir. Alors, moi, je voulais dire que en entendant le thème de ce soir, j'ai pensé au président de la République qui subit pas mal de critiques selon lesquelles il veut pas débattre ou ça, entre guillemets, le contexte lui permet d'échapper au débat. Or, je trouve que ces critiques-là sont un petit peu hypocrites parce que justement, les autres candidats, s'ils avaient été au pouvoir, ils auraient été bien obligé d'avoir les trois casquettes, quoi, président de la République, candidat et en plus chef du Conseil de l'Europe. Merci. Voilà, tout simplement. Je trouve que c'est un débat. Certains candidats, je vais pas les nommer, mais l'ont chargé. Alors, je suis pas une pro Macron, hein, mais je trouve que ces critiques-là étaient un peu très hypocrites.
Merci voilà. Beaucoup, Laure. Le problème de la double casquette, Roland Querol, c'est toujours un sujet de toute façon quand on arrive à ce stade de la campagne avec un président sortant. Néanmoins, et on l'a bien vu dans ce déplacement à Poissy aujourd'hui, est-ce que cette campagne empêchée qui se fera différemment ne le favorise pas lui, ne serait-ce que dans sa manière de faire campagne, dans ce qu'il aime quand il fait campagne, c'est-à-dire comme il l'a fait aujourd'hui, rejouer le grand débat et puis rentrer en regardant l'heure en disant c'est pas le tout mais il faut que je m'occupe de la crise ukrainienne maintenant.
Oui, bien sûr. C'était bien avant l'agression russe en Ukraine. On savait qu'il n'y aurait pas de débat. Il n'y en a jamais eu avec un président sortant depuis qu'existe une élection présidentielle en France. Aucun président sortant n'a voulu se colter des débats avant le premier tour, parce que s'il y a 12 candidats, ça veut dire que vous avez 11 personnes contre vous d'un coup. C'est pas gérable de faire des débats comme ça. Donc, c'est pas l'Ukraine qui a changé les donnes, mais elle éclaire un peu mieux l'impossibilité. On peut pas, en ce moment, aller débattre avec toutes les oppositions au moment où on est aux manettes de quelque chose qui est une guerre, tout de même, à laquelle nous sommes mêlés, évidemment. Donc, et évidemment, ça va le servir. Évidemment, le fait d'être celui qui téléphone à Poutine, téléphone à Zelensky, nous le fait savoir, nous dit qu'il nous parlera régulièrement pour nous en parler, ça le met évidemment à une échelle telle que, au fond, on est tous persuadés que l'élection est pliée, qu'il est déjà élu. Et d'ailleurs, si on nous interrogeait chacun d'entre nous, on le dirait.
J'allais vous demander, est-ce qu'on
faut. Il faut bien faire une campagne parce qu'il y a une campagne, mais voilà, la campagne, elle est probablement finie avant d'être commencée. En tout cas, c'est ce que je crois, c'est quand même le moyen pour chacun de s'exprimer. Mmh. Ils vont s'exprimer et il y aura l'égalité des temps de parole, on les entendra. S'ils ont des choses à dire de ce niveau-là, ils les diront.
Je mettrai un tout petit bémol, je ne sais pas, personne n'a une boule de cristal dans les 35 jours qui restent. C'est ce que disait Thomas Gomard, le directeur de l'IFRI, spécialiste des relations internationales, ce matin sur France Inter. C'est qu'on n'a toujours pas la connaissance des contre-sanctions russes. Mmh. On ne sait pas encore quelle va être la revanche de Poutine sur l'Europe et les conséquences qu'on en subira. Et vous avez des candidats qui se positionnent, qui prennent date aujourd'hui, je pense à Marine Le Pen, qui dit les sanctions économiques, on les soutient à condition que l'État compense financièrement les dégâts qu'elles occasionneront pour les Français. Donc on n'est pas encore dans ce temps-là. On n'est pas encore dans l'essence à 2 euros, 2,50 euros le litre. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Est-ce qu'il peut y avoir un réveil social? Je ne sais pas comment. On nous parle à Bercy du danger des routiers, pour qui la profession qui peut bloquer un pays très facilement, que les routiers sont en première ligne et que le plan de résilience va devoir justement tenir compte de ces professions très très vite.
Et c'est le téléphone sonne de demain pour tout vous dire. Est-ce qu'on est prêt à avoir froid pour l'Ukraine et qu'est-ce que ça veut dire? Et effectivement, Françoise Fressos, et ça, on le verra très très vite. Finalement, 34 jours, c'est très court, mais c'est très long, mais pour ça, ça peut être extrêmement court.
Oui, mais moi je pense que quand même le risque maximum, il est quand même pris par Emmanuel Macron parce qu'il est le président en exercice dans un... face à une situation internationale qui est extrêmement mouvante. On peut très bien être dans une semaine interpellé par les Ukrainiens en disant « Mais pourquoi vous engagez pas plus? Vous nous laissez tomber. » Donc il peut y avoir un retournement d'opinion. On peut avoir effectivement un baril de pétrole à un litre d'essence à 2,50€, 3€. On peut avoir une désunion européenne parce qu'il y a les prix du gaz qui augmentent et que l'Allemagne est beaucoup plus vulnérable que nous. Donc il peut se passer une série de catastrophes. Donc, il est quand même en première ligne, et il peut y avoir aussi le risque tout d'un coup d'un dérapage ou d'un accident nucléaire, que sais-je. Il est en première ligne parce qu'il est président de la République. Donc, lui dire président candidat, c'est la double casquette, elle est facile. Non, elle est difficile, je pense. Deuxièmement, je serai à la place des autres candidats. Moi, je demanderais qu'il y ait un débat compte tenu des circonstances exceptionnelles, mais un débat de qualité, c'est-à-dire pas lui reprocher le Waterloo sécuritaire, comme dit Valérie Pécresse, on comprend pas, je veux dire, c'est hors propos. S'il faut qu'il y ait un débat sur la politique internationale ou sur deux ou trois enjeux stratégiques, à mon avis, ça pourrait avoir du sens dans cette campagne parce que on a besoin d'aller à fond dans tous les sujets compte tenu de la dramaturgie en cours. Donc ça pourrait être une demande, mais est-ce qu'ils vont la faire ou est-ce qu'ils vont continuer leur jeu de dire « Macron débat pas, c'est dégoûtant » et tout, ça je trouve que c'est pas du niveau. Quoi.
Voici cette question d'Isabelle sur franceinter.fr et qui nous dit « J'ai peur que le conflit en Ukraine permette d'oublier l'exercice du pouvoir de Macron ces 5 dernières années, presque aucune mesure sociale ou pour l'environnement, dit-elle, ce conflit grave qui met en jeu nos vies, risque d'occulter toutes les questions sociales et environnementales qui vont avoir un impact certain sur nos vies aussi. C'est en partie ce qu'on lui reproche d'ailleurs sur la fameuse lettre aux Français qui disait pas grand-chose sur le fond de son programme. Et alors pardon de le dire comme ça, bien pratique en effet. Comme ça, il y a un certain nombre de choses de ces 5 dernières années dont on aurait parlé en temps normal, dont on parlera beaucoup moins cette fois-ci, Roland Cayrol.
Je suis pas absolument sûr de ça. Il nous a d'ailleurs dit aujourd'hui dans son déplacement qu'il traiterait l'ensemble de ces sujets dans sa campagne et qu'on aurait un programme complet présidentiel, notamment sur les questions d'environnement, d'éducation, etc. Et dans sa lettre aux Français, il annonce tout ça, hein, puisqu'il y a deux grandes parties, une partie sur la modernisation du pays et une autre partie sur la lutte contre les inégalités sociales. Donc je pense que ça ne restera pas du tout à l'écart de la campagne. Encore une fois, le fait qu'il ait un sujet mondial qui, évidemment, prenne une place légitimement considérable, ça n'empêchera pas que lui, notamment, il soit absolument contraint de nous parler de tous les problèmes qu'a à gérer un président. Et j'ai la conviction qu'il le fera. Et qu'il le fera à nouveau en essayant de jouer le Macron et à gauche et à droite.
Non, cette lettre, elle est pratique parce que il peut mettre plein de post-scriptum derrière, tout au long des 35 jours qui restent. La preuve, la semaine dernière, on disait à ce micro qu'il n'y avait pas de chantier institutionnel lancé dans cette lettre, alors qu'on a parlé pendant 5 ans de doléances, de gilets jaunes qui voulaient une démocratie différente, plus directe, moins représentative, etc. Et finalement, il a dit aujourd'hui à son QG de campagne qu'il lancerait un grand chantier de renouveau démocratique sur les institutions. Ça n'était pas dans la lettre. Ça l'est 3 jours plus tard. Donc il peut jouer l'effet de surprise régulièrement, et ça c'est un... Il nous a habitués souvent à des coups de com' qui surprennent aussi parce qu'on ne s'y attend pas.
Mais regardez ce que dit Peggy par exemple, elle nous dit « Bonsoir, il faudrait aussi parler du rapport catastrophique du GIEC qui passe complètement sous les radars, il pouvait servir de toile de fond parce qu'il concerne tous les sujets sociétaux, etc. Oui. » Et finalement, pouf, il passe quasiment à la trappe, non ?
Oui, mais il y a une marche pour le climat le samedi 12 mars. On disait que l'Ukraine allait tout écraser, mais samedi 12 mars, ces sujets-là vont revenir dans l'actualité nécessairement, même s'ils sont beaucoup moins audibles. Et que pour Yannick Jadot, c'est extrêmement compliqué. Il avait conçu son parcours de campagne avec cette étape du GIEC qui est passée sous silence, alors qu'effectivement, c'est l'affaire du siècle, comme le dit l'association.
Alors moi, je plaiderais encore sur cette crise ukrainienne. Au fond, on voit les prix de l'énergie flamber. C'est un peu l'anticipation de ce qui va se passer avec le réchauffement climatique. Et on voit que le gros débat, c'est le nucléaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on continue le nucléaire, sachant aussi qu'il peut y avoir des risques majeurs d'accident. Donc je pense que ce sera quand même au cœur de la campagne. Donc il ne faut pas se décourager en disant tous les autres sujets sont à côté de la plaque. Je pense que tous les sujets cruciaux sont posés sur la table aujourd'hui.
Si ce n'est qu'ils le sont effectivement par le prisme de cette guerre, ce qui là pour le coup est inédit. Bonsoir Cécile.
Bonsoir.
On vous écoute.
J'avais une question en fait par rapport, ça a été un peu abordé il y a quelques minutes. Je me posais la question en fait au vu du contexte international et ce qui se passe en Ukraine et contre les pays de l'OTAN, et l'OTAN, je me posais la question, est-ce que ce n'est pas risqué de changer de président? C'est-à-dire que au niveau de l'importance, avec les importances des négociations diplomatiques, des enjeux qu'il peut avoir entre les différents pays, est-ce que de changer d'un interlocuteur et de président ne peut pas avoir une incidence au niveau international?
Merci beaucoup pour cette question. Est-ce que c'est ça qui creuse l'écart encore plus, à votre avis, Yaël?
Tout à fait. Vous me parliez tout à l'heure de Valérie Pécresse. Pourquoi ça ne prend pas en ce moment? Dans son entourage le plus proche, les confidences sont assez terribles. C'est que eux, les remontées de terrain qu'ils ont, dans les fédérations LR en France, c'est que les militants leur disent « on est confronté à ça ». À quoi bon changer de capitaine dans la crise ? Et donc sur les marchés, partout où ils vont pour tracter, on leur dit ça. Oui, oui, Valérie Pécresse, pourquoi pas ? Mais pourquoi on changerait de chef dans la crise alors que il va bien falloir que cette guerre elle soit gérée avec les interlocuteurs qui sont déjà en place ? Et ça, c'est assez redoutable. Ils n'ont pas la parade. Peu de candidats trouvent la parade aujourd'hui face à cet argument qui est de dire on change pas un capitaine dans la crise.
François Fressin. Oui, en complément, c'est aussi sur la scène européenne, c'est-à-dire c'est Merkel qui est partie, donc le vétéran au fond dans les affaires européennes, c'est le jeune Emmanuel Macron qui parle avec tous les puissants du monde et effectivement
et qui est au milieu de la présidence de l'UE.
Exactement. Et donc le sujet, c'est est-ce que ça vaut le coup de changer de président ou pas?
Excusez-moi, Fabrice, on vous écoute.
Bonsoir. Je suis content de revenir. Je ne pensais pas passer sur votre antenne parce que vous avez effectivement parlé de transition écologique. Donc, pour moi, ce conflit russo-ukrainien va, je l'espère, remettre au centre des débats la transition écologique, énergétique, encore par rapport à la dépendance au gaz, par rapport à la dépendance au risque nucléaire qui apparaît évident, et puis peut-être remettre en question l'agrochimie. Pourquoi pas parler du scénario négawatt ? Enfin, on va revenir sur des choses qui nous intéressent directement, entre autres parmi tous les problèmes que cause ce conflit russo-ukrainien.
Merci beaucoup pour cette question, Roland Cayrol. Au fond, ce que nous disent ce soir les auditeurs, c'est grâce à ce conflit, pardon de le dire comme ça, on va avoir peut-être une campagne, on peut avoir une campagne, si on le veut, qui sera plus sérieuse, en fait, qui sera plus dense sur les thèmes.
Je crois que c'est une possibilité que moi j'écarte pas du tout. C'est-à-dire que c'est l'idée, il y a l'Ukraine, et on va parler que de l'Ukraine, n'est de toute façon pas possible. Il y a tous les jours des enquêtes qui montrent que les Français, ils sont extrêmement inquiets par l'Ukraine, extrêmement, que ça les intéresse énormément, mais que si on regarde
ça reste pouvoir d'achat 1, Ukraine 2, d'ailleurs. Hein, le pouvoir d'achat est toujours.
Mais très vite derrière, vous avez le reste, y compris le climat, l'environnement en général, et les problèmes régaliens qui viennent juste derrière. Donc, je pense pas qu'aucun candidat puisse se dire, puisqu'il y a l'Ukraine, la campagne est terminée. Ils ont, au contraire, tous devant eux, un cahier de route qui doit leur dire, vous êtes obligés, tout en tenant compte en permanence de ce qui se passe en Ukraine, vous êtes obligé de traiter le sujet présidentiel dans sa totalité. Et je suis absolument persuadé qu'ils vont tous le faire. Évidemment, le problème, c'est très difficile pour ceux qui avaient commencé autrement. Mmh. Vous les avez évoqués, Mélenchon, encore plus Zemmour, Le Pen, et je dirais Valérie Pécresse, qui a quand même réussi le tour de force de se tromper de campagne depuis le début, de pas vouloir parler à la frange libérale démocratique européenne à laquelle elle était censée appartenir, et qui a même sur l'Europe, qui en a rajouté sur la souveraineté nationale, et s'en est prise au mécanisme de la construction européenne.
Y compris au drapeau européen sous l'Arc de Triomphe le 1er janvier.
Absolument.
Absolument.
Si vous relisez, on a beaucoup dans la presse fait ce coup-là à Zemmour et à Marine Le Pen de rappeler ce qu'ils avaient dit. Elle a eu la chance qu'on n'a pas trop repris ses propres paroles, mais c'était incroyablement eurosceptique. Mmh. Et dans ces conditions, c'est très compliqué pour elle d'être contre Macron et de changer de pied sur l'Europe.
Roland a raison, c'est-à-dire que plus les candidats ont démarré tôt et plus le placard à archives peut faire mal.
Roger va dans le sens que vous dites, il nous dit « je ne comprends pas bien l'opposition que vous faites entre parler des présidentielles et parler de l'Ukraine. Pour moi, les différentes positions des candidats sur l'Ukraine éclairent parfaitement bien leur conception de la société et aussi de l'Europe. » Et du coup, ça nous éloigne, et c'est tant mieux probablement, d'une petite politique politicienne. Je pense par exemple au ralliement de Marion Maréchal hier à Éric Zemmour, dont on a parlé, mais pas excessivement, en d'autres temps, Françoise Fressoz, est-ce qu'on n'aurait pas fait une hyper couverture de ce ralliement ?
Et d'ailleurs, Zemmour en parlait comme par exemple, il comparait ça avec l'appui que François Bayrou avait apporté à Emmanuel Macron et qui savait en 2017 et que ça avait fait basculer sa campagne. Oui, je pense que la succession de crises de ce quinquennat a pour effet d'éradiquer tous les effets politiciens. C'est de façon absolument radicale. C'est-à-dire tous ceux qui jouent à ça se trouvent complètement marginalisés ou pas du tout dans le film. Et je pense qu'il y a encore autre chose, moi, qui me frappe énormément. Je pense que la difficulté de Valérie Pécresse, c'est que je pense qu'elle n'avait pas la place dans cette campagne parce que il aurait fallu qu'elle affronte Macron et que Macron, au fond, il la domine sur tous les sujets de la droite libérale. Et que donc, elle avait qu'une solution, c'était se replier vers les souverainistes.
C'est ce qu'elle a pensé, en tout cas.
Ce qu'elle a pensé, et on voit bien qu'elle n'y arrive pas. Et donc, ce qu'il y a aussi en filigrane dans cette campagne, c'est cette recomposition politique qui est à l'œuvre depuis 2017, et on voit que ça marginalise tous ceux qui ont espéré que le clivage gauche-droite reviendrait à l'occasion de cette campagne. Le clivage, il a disparu. Le clivage, maintenant, c'est l'Union européenne, c'est qu'est-ce que c'est que le poids des démocraties dans le monde, comment on se bat, faut-il réarmer, comment on assume notre souveraineté, et on voit que c'est la succession de crises, c'est crise sanitaire, crise ukrainienne, qui nous met exactement dans une campagne, une vraie campagne de vérité.
Et la reconfiguration dont parlait Françoise, Yael Gauze, puisqu'on était dans le Front National il y a un instant, là aussi, on se dit qu'il y a reconfiguration du Rassemblement National d'ailleurs, qu'on est passé là aussi à une autre ère. Et c'est pour ça que je disais qu'on en aurait fait beaucoup en d'autres moments. On est vraiment passé à une ère post-Le Pen, est-ce qu'on peut dire ça ou pas?
Le Pen, je sais pas encore. Il faut voir. Aujourd'hui, Marine Le Pen est la finaliste dans toutes les enquêtes d'opinion. Hein, ce ne sont que des photos à l'instant T, etc., etc. On le sait, mais quand même, toutes les enquêtes disent que c'est elle la finaliste, et avec des scores au deuxième tour qui sont quand même extrêmement élevés. On est sur du 55-45 en général, en moyenne. Elle était à 33 en 2017. Ça veut dire des gains considérables, des millions de Français en plus qui lui accorderaient leur confiance. Elle dit que c'est sa dernière campagne.
Et plus haut par rapport à tous les autres, d'ailleurs, pour faire un aparté, plus haut que c'était un deuxième tour avec Éric Zemmour.
Qui sont sous les 40,
et
les autres.
Voilà, même Valérie Pécresse en deuxième tour.
Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dernière campagne, d'accord, est-elle pour autant enterrée derrière? Je ne sais pas, elle veut continuer la politique quoi qu'il arrive, et puis rien ne dit ce que sera le second tour, on brûle les étapes là, mais en tout cas, la recomposition derrière, à droite, droite nationale, LR, pour ceux qui partiraient, Reconquête et RN, n'est pas écrite d'avance. Mais il y a effectivement des choses qui vont se produire de ce côté-là. En 2017, ce qui s'est joué, ça s'est joué à gauche, avec la cassure totale entre Benoît Hamon, Manuel Valls, qui a fait ensuite ce PS et ces gauches dites irréconciliables. La prochaine fois, c'est sur le flanc droit que risque de se passer ce grand ménage autour de ces deux positions dont parlait François, c'est-à-dire souverainisme d'un côté national, souverainisme européen de l'autre.
Oui, je suis d'accord avec Yael. Un mot en plus pour dire que elle a un avantage dans cette bataille des extrêmes droites, Marine Le Pen, c'est que elle l'a joué aussi électoralement en ni gauche ni droite. Mmh. Elle a, depuis 10 ans, réussi à ajouter à l'électorat d'extrême droite, j'allais dire classique, de son père, elle a ajouté un électorat presque aussi important en nombre d'électeurs qui viennent de la gauche, du Parti Socialiste et du Parti Communiste, et dans les catégories populaires. Donc elle a construit un électorat qui est un électorat qui dépasse les anciens clivages politiques et qui s'attaque au problème du pouvoir d'achat, au problème des inégalités, au problème de ceux qui disent les élites nous méprisent, on n'arrive pas à parler, on n'est pas entendu. Voilà, c'est difficile pour des gens comme Zemmour, qui sont sur une logique d'union des droites, d'aller contre une telle construction électorale.
Et rendez-vous compte, le tour de force opéré en quelques jours par Marine Le Pen, financé il n'y a pas si longtemps par les Russes, des banques russes, qu'elle n'a pas encore remboursées d'ailleurs, qui aujourd'hui dit bienvenue aux réfugiés ukrainiens, bienvenue en France, bienvenue chez nous.
Qu'elle va rembourser en rouble, allez savoir, comme c'est tendance visiblement. En ce moment, vous disiez effectivement, ni droite ni gauche, Françoise Fredfoss, on a l'impression que du côté d'Emmanuel Macron pour cette campagne-là, c'est et droite et gauche. On a l'impression d'avoir vu là tout récemment, et peut-être d'ailleurs à cause de ce qui se passe en Ukraine, des ralliements autant d'un côté que de l'autre.
Oui, mais je pense qu'il est en train de consolider et d'élargir le socle électoral qu'il a au fond gardé pendant tout le quinquennat. On a cru un moment, après les élections européennes, qui s'était fortement déporté sur la droite et qu'il était en train de perdre l'aile sociale libérale. Non, en fait, il a les libéraux des deux côtés et il est en train d'élargir, notamment avec Chevènement, que vous n'avez pas salué, qui n'est pas dans l'angle social libéral, mais qui est aussi un marqueur à gauche. Donc, il est en train de constituer ce qu'il a essayé de faire en 2017, c'est-à-dire un des pôles de la recomposition. Et ce qui se joue là, c'est effectivement qui est face à lui, c'est-à-dire est-ce que c'est Marine Le Pen sur un positionnement ni gauche ni droite, très populaire, le bloc populaire contre les élites, ou est-ce que c'est Zemmour qui essaye de faire la recomposition avec la droite en disant si on s'unit, on pourra battre Emmanuel Macron.
Roland Quirol, qu'est-ce que dit selon vous ce contexte sur l'abstention? Est-ce que au nom de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est plié, donc on se déplace encore moins, ou au contraire parce qu'il y a un contexte particulier, donc une on parlait de la présidentialité tout à l'heure, mais une envie de ça aussi, est-ce qu'on se dit que finalement on vote plus, on peut voter plus que ce qu'on avait imaginé ou pas?
Ça je ne sais pas, ça reste que le risque démocratique majeur. Au fond, on vote toujours plus en France à la présidentielle, nettement plus que dans toutes les autres élections, mais la courbe de l'abstention croît quand même. Cela dit, au premier tour, on a un maximum de 26% d'abstention, ce qui est encore admissible dans un pays démocratique avancé, et toutes les enquêtes par sondage depuis des mois montrent que ça aurait dû dépasser largement ça, 30, probablement plutôt 35% d'abstention. Ce qui est évidemment pas, pour gérer un pays, n'est pas satisfaisant. Mais il faut voir que dans la jeunesse, c'est chez les moins de 30 ans, et dans les catégories populaires, c'est les deux catégories qui se détachent là, il y a beaucoup plus que 30% de personnes qui disent aux sondeurs, il y en a marre de cette politique, ils nous font des promesses pendant les campagnes électorales, ils s'empressent de les oublier pour faire leur carrière après, on n'en veut plus, c'est tous les mêmes. Alors, est-ce que l'Ukraine est capable de changer ça? Franchement, je n'en suis pas sûr.
Quelque chose qui dirait, cette fois c'est grave.
Je n'en suis pas sûr, mais c'est une question qui est posée. Notamment pour les jeunes, qui sont visiblement extrêmement préoccupés par la question ukrainienne, il est possible que ça ramène quelques jeunes aux urnes.
Il nous reste une minute, Soyel.
Oui, les sondeurs ont un prisme déformant et déformé qui est de considérer que ce sont les électeurs sûrs d'aller voter. En tout cas, chez Ipsos, c'est ceux qui sont sûrs d'aller voter. Donc il y a une part de la population qui échappe pour l'instant au radar pour savoir quel sera le jugement final. En revanche, il y a aussi une réalité, c'est qu'Emmanuel Macron a dit « je veux stopper la guerre sans que la France devienne elle-même belligérante ». C'est le « en même temps » de la guerre ukrainienne de Macron. Ne pas devenir belligérant, mais stopper la guerre. C'est sur ces deux aspects aussi qui sera jugé au final le 10 avril. C'est est-ce que la guerre a été stoppée et est-ce que la France est rentrée elle-même en guerre, avec les risques que cela comporte?
Et si il y a une entrée en guerre, ce que personne ne souhaite, est-ce que c'est la faute d'Emmanuel Macron ou pas? Enfin, il va y avoir aussi un débat.
Oui, c'est pour ça que je vous dis que c'est le candidat le plus exposé, parce qu'il est face à un pays en guerre et il est face à des enjeux vitaux.
Que ça sera plus difficile pour les électeurs de savoir répondre à ces questions, parce qu'elles seront encore en train d'être posées au deuxième tour de l'élection présidentielle française.
On peut répondre très rapidement à la question de Christophe qui demande si le processus de l'élection peut être décalé à cause de la conjoncture.
Non.
Voilà, la réponse est non. Merci beaucoup, merci pour cette réponse très rapide. Merci à tous, merci de vos très nombreux appels. Portez-vous bien, à demain.